Bonjour, bonjour. Et c'est toujours une joie de pouvoir revenir à mes racines. C'est toujours une joie de pouvoir avoir l'occasion de me retrouver et de retraverser aussi la campagne et de voir ce qui se passe à la campagne aussi à cette période, à part les arbres qui ont perdu les feuilles et les chiens des chasseurs qui traversent les routes. J'ai essayé de ne pas le mettre sous la voiture là, ce matin, mais ça a été... C'est vrai que ça nous change de la ville quand même. Hein. Nous, de temps en temps, on est obligé de faire attention parce qu'il y a des sangliers qui traversent, ce qui est quand même assez rare, mais ça arrive en ville, et des fois des renards qui traversent, mais bon, c'est pas la campagne malgré tout. J'aimerais ce matin juste donner comme titre à ce message... Voilà. Les derniers seront les premiers. Et c'est vrai que j'ai mis cette image parce que ça me rappelle un peu ma scolarité, pardon. Dis-moi, comment imagines-tu l'école idéale ? Et le petit gamin qui répond, fermé. Je trouvais ça intéressant. Mais bon, c'est juste pour sourire. C'est juste pour sourire. J'ai, ces derniers temps, donc, réfléchi un petit peu, ou plusieurs événements m'ont fait réfléchir. Notamment, c'est un frère au niveau de notre église qui était en train de prêcher et il nous a encouragés à imiter Dieu. Alors, l'expression me paraissait un petit peu étonnante, imiter Dieu. Et puis, il est allé un peu plus loin, il a parlé donc d'imiter Christ, tendre vers la perfection, donc ce qu'on appelle la sanctification. Comme c'est mentionné dans Hébreux 6, c'est imiter Jésus. Mais il a donné plusieurs autres exemples. Aimer son épouse jusqu'à être prêt à donner sa vie pour elle, c'est imiter Jésus. Je sais pas, tu avais l'intention au mariage de dire « je serais prêt à mourir pour elle ».
Non. Peut-être le jour-là, mais pas.
Je sais, quand on vieillit, les choses sont différentes, c'est ça. Être prêt à perdre sa vie pour gagner celle des autres, c'est imiter Jésus. Agir dans le social, soutenir la veuve et l'orphelin, former des disciples, c'est toujours et encore imiter Jésus. Si on se penche un petit peu sur le livre de Daniel, il y a plusieurs points qui ont retenu mon attention. On est en train de refaire l'étude de ce livre de Daniel. On est dans les premiers chapitres, les chapitres les plus faciles, je dirais, malgré tout. Ce qui m'a impressionné, c'est de nouveau de repenser à ce jeune personnage de Daniel et de voir lui comment il a fait pour pas imiter Jésus, mais au moins, et sans le savoir, c'est quand même ce qu'il a fait, imiter ou aller dans le sens que Dieu voulait aussi pour lui. Ce qu'il a fait stimule réellement ma persévérance dans la foi et mon espérance. Et mon espérance. Daniel... Je l'ai comparé un petit peu à Joseph. Tous les deux étaient des jeunes hommes quand ils ont commencé à vivre des choses assez difficiles. On dit de Daniel, quand il a été amené en captivité à Babylone, qu'il était adolescent. C'est toujours assez surprenant, nous, quand on lit des histoires comme ça, on pense que c'est des hommes déjà d'un certain âge, qui ont une trempe déjà bien faite, mais on dit donc de Daniel que c'est un adolescent. Ces deux adolescents, alors Joseph était un petit peu plus âgé, semble-t-il, ils ont vécu ce qu'on appelle une descente aux enfers. Ils étaient à deux doigts de mourir à cause de leur engagement spirituel. On parlait tout à l'heure de la persécution, est-ce qu'on y serait prêt ? Moi, j'en sais rien et je préfère ne pas y réfléchir. Je ne sais pas comment je réagirais dans une situation assez difficile. Si j'avais été à la place de Joseph, qu'est-ce que j'aurais fait ? Peut-être, comme je vous l'ai déjà dit, j'aurais réagi en gilet jaune. Je ne suis pas d'accord. Oh Dieu, pourquoi tu fais ? Enfin, etc. Et j'aurais peut-être commencé à bouillir, peut-être remettre ma relation avec le Seigneur en question. Je ne sais pas. Je n'ai pas vécu ce genre de choses et je ne peux pas dire. Par contre, un verset, Proverbe 15, verset 33, va être répété dans le chapitre 18 au verset 12. Il y a un verset qui dit « L'humilité précède la gloire ». Oui, l'humilité c'est de la gloire. Mais en fait, de Daniel, je ne peux pas dire que c'est de l'humilité, c'est de la persécution. C'est plus de la persécution contre ceux qui n'entrent pas dans la pensée unique imposée par la culture royale, plutôt que de l'humilité. Et grâce à un miracle, c'est ça qui permettra à Daniel, la victime, comme Joseph, de trouver le chemin de la gloire. La persécution l'a amené à trouver le chemin de la gloire. Il y a une expression qu'on va trouver, et après je vais rentrer dans le livre de Daniel, il y a une expression qu'on va trouver dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, où il est dit « Jésus est descendu pour un peu de temps au-dessous des anges ». Vous connaissez cette expression? C'était à quel moment? À quel moment Jésus a été pour un peu de temps au-dessous des anges? Alors il y a deux cas qui nous sont proposés. Le premier cas, c'est lorsque Jésus a été mis au tombeau jusqu'à sa résurrection. Et on nous dit que c'est là qu'il a été mis pour un peu de temps au-dessous des anges. D'autres vont un petit peu plus loin, où ils disent que c'est pendant tout son temps de ministère terrestre qu'il était considéré comme au-dessous des anges. Il est dit là, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et puis, Ésaïe 53, versets 10 à 12, comme Apocalypse 1er, nous montrerons qu'après ce temps-là, Jésus a été élevé dans la gloire céleste, la gloire qui était réservée à l'agneau de Dieu. Alors le plan du message de ce matin, c'est un peu ça que j'aimerais voir, donc avec ces différentes parties, différents versets que je vais puiser donc dans Daniel 2, que je vais lire là tout à l'heure, c'est donc trois choses, c'est deux personnages, dont ce jeune ado face à un roi imbu de lui-même. La deuxième chose que j'aimerais voir, c'est l'énigme des rêves. Et la troisième chose, c'est le processus de la colère. Le processus de la colère. Alors, on va lire ces différents passages. Peut-être quelqu'un veut les lire? Ou il faut que je les lise à cause de l'enregistrement? Oui, vas-y. Merci, Christian.
Daniel 2 en entier.
Tu lis versets 1 à 6 et puis 13 à... 13 à 13. Puis 12 et 13 et puis après 17 à 19 et 46. Donc là, c'est 12 et 13.
D'accord. Alors, 1 à 6. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit tout troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen, « Roi, puisses-tu vivre toujours, raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens, « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et votre maison sera transformée en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi relevez-moi le rêve et son explication. » 13.
12 et 13, hein, s'il te plaît. C'est 12 et 13, là c'est...
Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort à des sages fut proclamé, et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. 17 à 19. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec les restes des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel. Et enfin, 46 à 49. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans aucune intervention extérieure, et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai, et son explication est digne de confiance. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il dévoile des secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même resta à la cour du roi.
Merci beaucoup. Les prénoms ne seront pas tout à fait les mêmes qu'à l'heure actuelle. On ne dira que ça. On ne dira que ça. Je vous encourage à relire les nombres et là, vous en verrez aussi d'autres, n'est-ce pas? Alors, oui, je vais m'arrêter donc d'abord sur Daniel et puis sur ce fameux roi et dire quelques points qui m'ont aussi touché d'une manière personnelle. Daniel, je le mentionnais tout à l'heure, un jeune ado. C'est le verset 4 au chapitre 1 qui va nous le dévoiler. Et on dit à ce moment-là que le jeune Daniel est issu de la tribu de Juda et il est véritablement victime d'un châtiment qui a été posé là. Donc il y a eu Nebuchadnezzar qui a fait la guerre à Israël. Il a ramené avec lui, on dit à peu près 10 milliers de personnes avec lui. Et il a choisi en particulier des gens de la haute société qu'il a ramené avec lui pour pouvoir les former et être à son service. Un ado qui est déjà victime de sa foi. Un ado qui est réellement consacré à Dieu. Un gars qui est prêt à perdre sa vie à cause de sa foi et pour sa foi. Ce qui repose déjà, qui me repose la même question en permanence, si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que j'aurais dit? Je ne sais pas non plus. Ça nous a remis en question parce qu'on avait un petit groupe hier matin, formation ITA, et dans ce groupe, il y a une lycéenne qui était parmi nous et qui a dit qu'elle a été assez touchée par... la manière ou par une phrase qui avait été dite alors qu'il y avait un groupe qui était formé, elle a dit « mais cette phrase, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le courage de la citer ». Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit « je suis allée aux toilettes et en arrivant là, il y avait un groupe de personnes qui discutaient et tout d'un coup, elle discutait pour mettre en place un mensonge. Et tout d'un coup, il y a une des filles qui a dit « mais attention, le salaire du péché, c'est la mort ». Et cette jeune lycéenne a dit « Est-ce que moi j'aurais eu le courage en public comme ça de sortir un verset biblique ?» Alors elle dit « Je ne sais pas dans quel contexte ça s'est dit réellement, je ne sais pas qui est cette fille, pourquoi elle l'a dit d'une manière assez forte pour que tout le monde l'entende, mais est-ce que nous, on est déjà plus âgés, mais est-ce que nous on aurait aussi le courage de pouvoir arriver, et jusqu'où on aurait le courage ?» de pouvoir affirmer notre relation réelle avec le Seigneur. Jusqu'à quel moment notre langage n'est pas trop adapté à ce qui se passe dans le monde pour mieux passer, et jusqu'à quel moment on a le courage de pouvoir citer la parole de Dieu. Consacré à Dieu. Et c'est ce que Daniel a fait. Il n'a pas eu peur de pouvoir dire qu'il était engagé avec le Seigneur. Un gars qui est convaincu, mais en particulier convaincu de la prière communautaire. Quand tout d'un coup, il a entendu qu'il allait être condamné à mort, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est ce qu'on a lu là tout à l'heure. Une de ses premières réactions, alors bon, le texte ne nous raconte pas tous les détails, hein, parce que sinon il faudrait, comme le dit Jean, il faudrait tellement de livres pour raconter tous les détails, mais on voit qu'une des premières réactions qu'il a, c'est de se retrouver avec ses trois amis et d'expliquer la situation et de passer du temps dans la prière, Formidable réaction, il invite à prier, il prie, et qu'est-ce qui se passe? Dieu répond. Ça, tout le monde le sait. Moi, je le sais. Je prie et Dieu répond. Je le sais. C'est pas pour ça que je passe plus de temps dans la prière, hormis quand je suis effectivement complètement coincé devant un problème que je n'arrive pas à résoudre moi-même. C'est souvent à ce moment-là que je commence à tirer la sonnette d'alarme, et pourtant. On en parlait avec Annette encore il n'y a pas très longtemps, où on se disait, mais pour toute chose, on devrait prier, pas seulement pour des choses pour lesquelles on est complètement coincé. Troisième élément que je peux reconnaître aussi chez Daniel et qui me remet en question, c'est que à partir du moment où tout d'un coup Dieu lui a donné la réponse, c'est un gars qui prend le temps de louer Dieu. Il prend le temps d'être reconnaissant envers le Seigneur. C'est le verset 20 à 23 qui vont le mentionner. Louer Dieu. Quand est-ce que je loue Dieu en général, moi? La louange à Dieu aujourd'hui s'est malheureusement transformée en « je passe un temps à chanter ». Moi, ça me paraît un petit peu dommage parce que ce n'est pas que ça. On peut pouvoir louer Dieu, surtout comme moi avec mes cordes vocales. Maintenant, je ne peux plus chanter ou plus trop. Sinon, vous m'auriez entendu, n'est-ce pas, chanter faux. Mais louer Dieu, c'est dire sa reconnaissance. Et ça vient du cœur. Daniel est aussi un jeune homme, comme on disait, consacré, convaincu, un jeune homme qui est reconnaissant, mais ce n'est pas seulement un homme qui passe du temps dans la prière, c'est un homme qui est actif, un homme qui sait passer aussi à l'action, un gars qui sait se mouiller pour sa foi. Et c'est vrai que c'était quand même osé, alors qu'il n'était pas trop connu encore à cette époque-là, alors qu'il n'était qu'un jeune, homme, voire un gamin, comme on dirait aujourd'hui, il a osé aller voir ce fameux gars qui lui a dit « Mais est-ce que moi je pourrais discuter directement avec le roi ? Est-ce que vous aujourd'hui vous viendrez à l'idée de pouvoir dire « J'aimerais aller discuter avec le président de la République ?» Aujourd'hui on se sent peut-être un peu plus libre qu'avant les années 68, mais malgré tout, moi je me souviens personnellement que tout au début de ma vie, de mon ministère, c'est vrai que quand j'envisageais d'aller voir le maire, j'avais quand même beaucoup de retenue. J'avais un peu peur de ne pas savoir quoi dire à ce maire. C'était quand même un personnage. J'avais peur de savoir comment j'allais être reçu ou mal reçu. J'avais plein de schémas peut-être négatifs dans ma tête. Lui, il n'avait pas peur, il est monté directement voir le roi, il va discuter. Il était convaincu de la réponse que Dieu lui avait donnée et que c'était la réponse de Dieu pour ce haut personnage, comme on dira tout à l'heure, appelé roi des rois sur la Babylone à l'époque. Un gars qui ose se mouiller. Et puis, au verset 28, on va voir que c'est un gars qui ose témoigner de Dieu. Il va dire au roi, si je te déclare toutes ces choses, ce n'est pas par ma connaissance. C'est Dieu qui a révélé toutes ces choses. C'est Dieu. Ce n'est pas ma sagesse. C'est Dieu qui m'a révélé. Ce qu'on peut voir chez Daniel, je vais le résumer, dans ce fameux processus, j'ai appelé ce processus VCMR, V comme victime exilée, C comme condamné à mort, M comme miraculé et R comme restauré. Il deviendra donc le bras droit de ce roi despote. V, C, M, R, victime, condamné à mort, miraculé et restauré. Nebuchadnezzar, qui sait l'écrire sans faire de faute? Et il y a d'autres versions qui l'appellent Nabucodonosor. Voilà, Nebuchadnezzar. Moi, j'ai triché. J'espère que je l'ai bien écrit, oui. J'ai triché parce que nous avons un correcteur orthographique dans l'Oubécan et elle le corrige automatiquement, donc j'ai moins de soucis. Il semble que l'histoire de Daniel s'est passée dans les années à peu près 604 avant Jésus. Et il est dit donc dans ce verset 37 qu'on a lu tout à l'heure, il est dit qu'il est appelé roi des rois. Ça fait drôle, hein ? Parce que roi des rois, pour moi, je ne peux l'accepter que pour le Seigneur Jésus. Il est le roi des rois. Et à cette époque-là, sur le niveau de la position qu'il avait sur l'ensemble des peuples de l'époque, Babylone était reconnue comme étant le pays qui surpassait tout le monde. Et donc, ce roi Nebuchadnezzar, qui était au-dessus de tout, à vue humaine, appelé roi des rois. Il avait un grand royaume. Mais qu'est-ce que va lui dire Daniel ? Daniel va lui déclarer une chose que j'ai souvent du mal et qui me reprend, que j'ai souvent du mal à piger, mais qui est pourtant une réalité. Daniel va lui dire « Ta royauté n'existe que parce que c'est Dieu qui t'a donné cette place. » J'ai du mal à pouvoir accueillir cette pensée, hein. Si tu es roi, c'est parce que, c'est pas parce qu'un peuple, alors ça marchait pas comme ça à l'époque, c'est pas parce que tu as été élu, c'est pas parce que tu as été reconnu, c'est pas parce que tu es le plus fort, c'est parce que Dieu t'a donné cette place. Daniel, ce jeune gamin qui vient voir le roi des rois, va lui dire, si tu es roi, c'est pas grâce à toi, c'est Dieu qui t'a donné cette place. Incroyable, incroyable. Croyez-vous que le président de la République a été président de la République parce que Dieu le voulait.
Oui.
C'est fou, hein ?
C'est comme ça. Même les pires, là, pouvoir.
Mais
c'est ce qui leur donne c'est ce qui leur donne un pouvoir limité. Un pouvoir de nuisance limité.
Moi, je vais passer au point 4. Mais ce qui est quand même assez terrible, c'est que Dieu l'a utilisé comme un véritable instrument pour quoi faire ? Alors, pour être révélé, mais dans un premier temps, c'est que Dieu l'a mis à cette place pour pouvoir châtier le peuple de Dieu. Et c'est là que j'ai encore plus de mal. Dieu l'a mis à cette place, à cet endroit, pour qu'il vienne châtier Jérusalem, qu'il vienne châtier Juda, qu'il vienne châtier Israël, parce que, et il est dit, Juda était devenu un peuple récalcitrant contre Dieu, et la seule manière que Dieu a trouvé, non, parce qu'il avait déjà fait bien d'autres choses avant, pour pouvoir permettre au peuple de Dieu de revenir à lui, c'était effectivement d'utiliser un de leurs ennemis qui viendra les châtier, et qui les emmènera à l'exil pour qu'ils reviennent par la suite, tout repentant vers Dieu et de nouveau dans le pays que Dieu avait promis. Incroyable. Tu es à cette place pour jouer un rôle que Dieu t'avait réservé et notamment pour venir nous châtier, pour que nous puissions revenir aussi à Dieu. Merci de l'avoir mentionné. Il est limité. Sa force apparente, reconnue dans le monde entier de l'époque, elle est quand même limitée, elle est limitée par Dieu. Même s'il s'est entouré d'un certain nombre de personnages qui étaient reconnus comme étant les sages des sages, malgré tout, Dieu l'a limité. Dieu l'a limité. Et si on avait lu tout le chapitre 2, on se rendrait compte aussi que dans la suite des temps, les gens qui viendront prendre sa place aussi seront limités et même la royauté va disparaître au niveau de ce pays. C'est l'histoire de la fameuse statue dont il est parlé, une statue de fer, d'or, etc., avec des pieds d'argile et qui va finir par tomber. C'est le fameux rêve de cette statue qui va le lui dévoiler. Nebuchadnezzar, Daniel. Chut, je rêve. Qui a rêvé cette nuit? Vous avez bien dormi? Combien de fois vous vous êtes levé cette nuit?
Ça dépend ce qu'on a bu la veille.
Ça dépend ce qu'on a bu. Et tu parles pas du petit vin que tu as bu la veille, ne serait-ce que de l'eau, ça suffit largement. J'ai fait un rêve. Nebuchadnezzar, il a fait un rêve et il l'aimerait bien, donc alors on ne sait pas exactement ce qui est derrière, si effectivement il a oublié ce rêve ou s'il voulait tester ses sages, mais il a fait un rêve et on aimerait bien, il aimerait bien donc retrouver et le rêve et son explication. Alors les rêves. Les rêves, est-ce qu'on en parle dans la Bible? Y a-t-il des gens où Dieu a-t-il utilisé des rêves pour parler à un certain nombre de personnes? Oui, on en connaît, et je vais en citer rapidement quelques-uns. Il est parlé dans Juges chapitre 7, verset 13, un livre que je suis en train de lire aussi à l'heure actuelle. Un Madianite qui a eu un rêve, et ce rêve a complètement déprimé l'ennemi qui essayait de lutter contre Israël. Et Gédéon, lui, a été aussi prévenu que ce Madianite avait eu un rêve qui a déprimé l'ennemi, et l'ennemi est parti. On a aussi Matthieu 27, verset 19, la femme de Pilate. La femme de Pilate, vous vous souvenez? Elle a eu un rêve. Et dans ce rêve, après ce rêve, elle est venue voir son mari et lui a dit « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Donc, à cause de Jésus. Jacob, avec les anges qui montaient et qui descendaient sur l'échelle, Genèse 28, verset 12, les chansons et le pantier de Pharaon à l'époque de Joseph, Pharaon lui-même, Genèse 41, Joseph, Genèse 37, et il y a plusieurs versets qui en parlent, Salomon dans 1 roi 3, et Joseph, fiancé à Marie, qui a eu aussi un rêve, les mages qui ont aussi eu un songe. Dieu parle aussi au travers des songes, et je n'ai cité que quelques exemples. Mais de notre temps, je pense pouvoir affirmer qu'il y a des choses qui sont toujours étonnantes, mais Dieu utilise aussi le rêve pour pouvoir parler à certaines personnes d'une manière particulière. Et on m'a dit, j'ai entendu plusieurs témoignages à ce sujet-là, souvent des musulmans qui vont se convertir vont dire la même chose. J'ai eu Jésus en rêve. Et c'est ça qui m'a amené à lire la Bible et à donner ma vie à Dieu. Il y a des livres aussi sur ce sujet qu'on ne pourrait que conseiller. Mais finalement, tout le monde rêve. Je rêve, tu rêves, il rêve, n'est-ce pas? Tout le monde rêve. Mais moi, je ne me souviens jamais de ce que je rêve. Si, il y a des fois, je me souviens, vous savez, quand je suis tombé de la falaise et puis, boum, le lit, il a bougé. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ça, c'est une chose qui est terrible. Peut-être certaines personnes auraient l'explication de tout cela. C'est quoi ce rêve? On a du mal de distinguer l'appel de Dieu ou la résolution de certaines de nos investigations de la veille. Ma prière, c'est que Dieu nous aide à faire le tri parce que je vois deux types de personnes. Je vois des personnes qui sont très 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 attachés à leurs rêves et qui veulent toujours leurs explications de tous leurs rêves parce qu'ils sont sûrs que Dieu leur a parlé dans le rêve qu'ils ont eu cette nuit. Et ils ne veulent surtout pas rater quelque chose à ce niveau-là. Et ça, c'est souvent une affaire culturelle. J'ai souvent eu l'occasion de pouvoir en discuter, notamment avec des personnes d'origine africaine, où les rêves pour eux, c'est quelque chose de très attachant et ils passent toute leur journée à essayer d'expliquer leurs rêves de la nuit. Et puis il y en a d'autres, ils n'en ont absolument rien à faire. J'ai rêvé, tant mieux, tant pis, c'est pas grave. Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il poursuit en disant, on n'y prend pas garde. Oui, le danger, certains parlent d'autres rêves qu'il peut y avoir aussi, inspirés plutôt par le spiritisme, des rêves prémonitoires, etc., etc. Comme dans tous ces domaines, c'est assez difficile de pouvoir faire vraiment la part des choses, et moi, j'ai souvent du mal. La colère. Et ne m'énervez pas sur ce sujet, s'il vous plaît. C'est un professeur, dit l'histoire, qui veut démontrer la montée de la colère. à ses élèves. C'est en fac. Et il a mis son haut-parleur sur son téléphone et il téléphone à une dame plusieurs fois. Et il pose cette question. Madame, est-ce que je peux parler à Jacques ? Quelqu'un a déjà entendu cette histoire ? Est-ce que je peux parler à Jacques ? Madame, non, non, vous vous êtes trompé, il n'y a pas de Jacques derrière ce numéro de téléphone. Alors il rappelle une deuxième fois. Oui, bonjour madame, excusez-moi, j'aimerais parler à Jacques. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a pas de Jacques ici. Je suis désolé, vous vous êtes trompé de numéro de téléphone. Il retéléphone une troisième fois, jusqu'à 10 fois. La dame, elle est excédée au bout du fil et peut-être elle aurait fait comme moi, je ne sais pas. Moi, un jour, j'ai envoyé balader le téléphone et je l'ai envoyé claquer contre le mur, carrément tellement j'étais énervé par rapport à une dame qui appelait sans arrêt. Et il y a un élève qui vient là juste derrière et parce que le prof a demandé... Vous voyez, ça c'est, enfin, il a dit, ça c'est le summum de la colère, je l'ai amené jusqu'au bout. Il y a un élève qui arrive et qui dit, non, non, monsieur, vous n'êtes pas encore arrivé jusqu'au bout, donnez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Il prend le téléphone, rappelle la dame et il lui dit, je suis Jacques, y a-t-il un message pour moi ? Je ne sais pas ce qui s'est passé là derrière, je ne veux pas le savoir, la colère. Tout le monde... peut dire avec plus ou moins de réalisme, je dirais, que la colère est aussi plus ou moins rapide chez nous. Et moi, je m'en rends compte aussi quand nous volons. Je l'ai vu encore hier, et je me rends compte que chez moi, la moutarde monte aussi assez rapidement. Je me suis arrêté au stop, j'ai vu une voiture qui venait doucement, j'avais le temps de passer, et tout d'un coup de klaxon, appel de phare, les signes, je vous les passerai, etc. Nebuchadnezzar. Comment il est arrivé à cette fameuse colère ? En fait, si je regarde bien son exigence, c'est une gamerie au départ. C'est une gamerie. Il voulait simplement qu'on lui dise quel était le rêve qu'il avait eu et qu'après on lui explique. Mais tout le monde lui a dit « Mais c'est pas possible ! Comment est-ce que je peux savoir ce que tu as rêvé ?» Alors c'est sûr que les dames ont apparemment un certain pouvoir de savoir ce que leur mari pense. Mais si, il y a des fois, Annette me dit, si, c'est sûr que tu penses à ça. Je dis, écoute, tu en sais plus long que moi, alors ma foi c'est bien. Au départ, souvent une gaminerie d'enfants gâtés. On lui refuse sa demande parce que c'est impossible à résoudre. Alors le gars, il est frustré, il se sent diminué, il se sent dévalorisé. Et il va se mettre dans une colère noire, et à partir de ce moment-là, il va aller jusqu'à exiger la mort des autres. C'est quand même terrible. C'est là que je me suis dit, je comprends peut-être un peu mieux pourquoi le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que tu arrives des fois à prendre des décisions qui sont quand même assez ignobles. Il veut tuer tout le monde parce qu'on ne veut pas répondre à sa gaminerie. La colère. Une émotion simple qui traduit l'insatisfaction. Elle est vécue à l'égard de ce qu'on identifie à tort ou à raison comme étant responsable de notre frustration. On évoque donc de la colère envers l'obstacle à notre satisfaction. Là, je vais parler pour moi d'une manière tout à fait personnelle. Pour moi, la colère, c'est souvent une sorte d'aveu d'impuissance face à une situation ou une personne. Mais elle peut malheureusement être la source de dégâts psychologiques, physiques, matériels, avec ou sans possibilité de retour en arrière et de réparation par rapport aux gens envers qui on avait la colère. Et c'est ça. Quand ce gars a décidé de trancher la tête à tout le monde, mais c'est ignoble pour une gaminerie. La colère nous amène malheureusement jusque-là. Je terminerai avec quelques conclusions. Les magiciens, les astrologues, les sorciers, les prêtres qu'il avait autour de lui ont montré et lui ont dit, mais non, nous n'avons pas la possibilité d'eux. Face à eux, Daniel leur a dit, Dieu m'a révélé. Ce que je vois au travers de cela, c'est que la religion et le spiritisme ont eux aussi des pouvoirs qui sont limités. Et tant mieux. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que au travers de tout ce qu'on peut vivre, même des choses qui sont ultra difficiles, que Dieu veut nous conduire. Souvent, on ne voit pas le chemin sur lequel on doit marcher. C'est un responsable des pasteurs dans l'Est de la France qui est venu me voir l'autre jour et qui m'a dit « Écoute François, tu prévois quoi pour ton avenir ?» C'était juste la question qu'il ne fallait pas me poser en ce moment. Déjà, je ne sais pas ce qui va se passer dans 8 jours, dans 15 jours, je ne sais pas. C'est vrai que j'aimerais bien, personnellement, vivre de la même manière que le peuple hébreu a pu vivre dans le désert. Que Dieu apparaisse là, comme une nuée le jour, comme une flamme de feu la nuit, et puisse me dire, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que tu fais dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. J'aimerais bien, non ? Les jeunes qui viennent de passer leur bac se posent la même question et disent, mais Seigneur, où je vais ? Où je vais ? C'est un jeune qui me disait, tu sais François, je me pose plein de questions pour mon avenir. J'aimerais bien me marier, j'aimerais bien gagner de l'argent, j'aimerais bien, etc. Et tu vois, quand on est jeune, c'est quand même difficile à pouvoir prendre des décisions. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit, j'ai les mêmes problèmes. Je ne sais pas non plus de quoi ma vie sera faite. Et pourtant, le Seigneur a prévu quelque chose. Dieu ne veut-il pas simplement qu'on avance à son rythme et il nous fera découvrir le chemin en son temps. C'est ce que je me dis tous ces derniers temps. Je ne sais pas, mais le Seigneur veut me conduire. Dernier point. Pourquoi Dieu est-il intervenu de cette manière avec Daniel ? C'est un roi qui va s'incliner devant Dieu. On voit à la fin du chapitre 2 que le roi va reconnaître qu'au travers de ce qui s'est passé avec Daniel, qu'en fait, il est animé du grand et du vrai Dieu et il veut se prosterner devant ce grand Dieu, devant ce Dieu vivant. Un roi s'incline. Après, la question, c'est de savoir jusqu'à quand. Est-ce qu'il ne l'a pas fait seulement aussi de la même manière qu'il a réagi par la colère ? Est-ce qu'il n'a pas tout simplement dit, oui, ça c'est vrai, j'ai été touché, aujourd'hui je veux marcher. Est-ce que ça tiendra ? On verra ça plus tard. Comme aujourd'hui, et j'y réfléchissais encore ce matin en venant en voiture, je reconnais que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se convertissent que par intérêt. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir pour demander à se faire baptiser seulement par intérêt. Et puis après, on se rend compte que malheureusement, il n'y avait pas grand-chose qui était derrière. Et c'est dommage. C'est dommage. Malgré tout, je crois que Dieu a voulu permettre à Daniel de pouvoir jouer un rôle important pour que le roi reconnaisse « Il y a quelqu'un de plus grand au-dessus de toi. » C'est certain, a-t-il dit, « C'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. Dieu veut aussi changer le cœur de nos dirigeants. » C'est moi qui l'ajoute. Et j'ai ajouté aussi dans mes notes, « Si Dieu a incliné le cœur de ce roi, Nebuchadnezzar, pourquoi ne pourrait-il pas le faire pour les gens qui ont des responsabilités sur des pays dans le monde ? Le responsable de Nord-Coréen, nos présidents européens, africains et autres. Le petit Daniel, condamné à mort, est devenu grand. Et les grands plient le genou devant ceux qui sont plus grands qu'eux, à savoir Dieu. Est-ce qu'on veut prier dans ce sens-là ? N'est-ce pas ? Ça me touche d'autant plus, Seigneur, que c'était un jeune homme qui a osé confronter le roi, qui a osé discuter, lui montrer que lui, ce roi qui se croyait, qui était reconnu comme le roi des rois, il y avait quelqu'un de plus grand que lui, qui voulait lui parler, qui voulait le toucher au plus profond de son cœur. Toi, Dieu Tout-Puissant, tu as fait comprendre à Nebuchadnezzar que c'est toi qui l'avais choisi pour qu'il prenne une responsabilité, que c'est toi qui l'avais choisi est utilisé pour aller donner la punition à Israël, pour qu'Israël reconnaisse aussi qu'il fallait s'humilier devant toi et revenir vers toi. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont des responsabilités dans le monde, qu'ils soient au niveau mondial, mais qu'ils soient au niveau de leur pays. Et nous voulons te prier, Père, afin que, d'abord, tu suscites des Daniel pour qu'ils aillent parler à ces responsables de pays. Mais que tu parles aussi directement à leur cœur d'une manière ou d'une autre, par un rêve ou par autre chose, afin que les responsables de ces différents pays puissent aussi reconnaître « Tu es le seul vrai Dieu ». Qu'il y a après la vie sur cette terre, qu'il y a aussi une autre vie. Et avant cette autre vie, il y a aussi un jugement. Ils devront comparaître devant toi. Ils devront aussi s'expliquer de ce qu'ils ont vécu sans toi pendant toute leur vie ici-bas. Seigneur, donne-leur aujourd'hui. Et donne et permet qu'il y ait des responsables, des présidents, des rois qui puissent vraiment plier le genou devant toi aujourd'hui. Parce que c'est ton vœu le plus cher. Tout homme doit être sauvé. C'est ce qui te tient à cœur, c'est ce que tu veux réaliser. Tu appelles, Seigneur, les plus faibles comme tu appelles les grands, et tu veux permettre qu'aujourd'hui encore le ciel se réjouisse parce qu'il y a au moins un seul cœur qui va se repentir. Amen.